Bonjour et bienvenue dans l'émission « Les tisseuses et les tisseurs du vivant ». Cette émission est consacrée aux paysans et aux paysannes, aux artisans et aux artisanes, habitants et habitantes des Vosges, de la plaine aux montagnes. Ils et elles transmettent ou apprennent, se réapproprient des savoir-faire perdus, réinventent les traditions populaires. Ils et elles créent un monde plus juste, en cohésion avec leurs convictions écologiques, en symbiose avec les autres vivants. De leurs mains, ils et elles transforment la matière, tissent des liens entre humains et humaines, plantes et insectes, animaux et minéraux. Les tisseuses et les tisseurs du vivant, des métiers et des savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Janine et Yannick de la ferme du Clos Marin, installée à Moyenpal. Ce sont deux éleveurs et éleveuses de bovins qui produisent et transforment du lait et du fromage, notamment du Munster. Ils ont partagé avec nous un bout de leur quotidien, entre les odeurs des fromages, la chaleur des vaches et des veaux, les bruits des ruminations apaisantes, celui de la pluie et la découverte de cette cave vieille du 19e siècle dans laquelle les fromages sont affinés. Nous avons terminé cette journée avec la traite à laquelle nous avons assisté. Ils ont partagé leurs expériences, leurs observations, et nous les partageons avec vous aujourd'hui sur la radio RGM dans l'émission « Les tisseuses et les tisseurs du vivant ». Bonne écoute.
Salut Delphine.
Ouais, si, vas-y,
bonjour.
Tu peux passer.
Ah, pas de
Bonjour.
Salut Janine.
Ça va?
Ça va et toi? Il y a du monde?
Ouais, il y a Carole, ouais, tu peux y aller.
Super, bonne
journée. Bonjour. Merci, ouais.
On a racheté l'ancienne ferme à côté là pour faire notre maison. Donc on habite sur place. C'est super.
Et donc vous êtes installé du coup, enfin toi tu t'es installé en 2003.
Ouais. Okay. Ouais, ça fait 20 ans cette année. Voilà, puis du coup on s'est mis à faire du fromage quand Yannick s'est installé. Au début on faisait que du lait livré en laiterie quoi. Il y en a beaucoup qui disent faut plus consommer de lait de vache, ça fait mal aux articulations, etc. Ouais, quoi. Ouais. Après, nous, ce qu'on dit beaucoup, parce que du coup, nous, en fait, avant de s'installer sur cette ferme, mon mari, il est ingénieur agricole. Et puis moi, j'ai fait un BTS agroalimentaire et une spécialisation en fromagerie. Et du coup, voilà, techniquement, chimiquement, etc., on sait un peu de quoi on parle, quoi. Mmh. Et on sait aussi que bah, voilà, le lait cru, il y a plein d'atouts, quoi. C'est super bon à la santé. Après, ça dépend énormément de ce que les vaches mangent. Pour la petite histoire, par exemple, le Munster, ça... un fromage à croûte lavée. Les croûtes lavées, si vous regardez bien sur la carte de France, en dessous de la diagonale de la Loire, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que l'air est trop sec, en fait. Donc les AOP qui sont en croûte lavée, il y a Livarot au Pont-l'Évêque, en Normandie. Après, il y a Époisses, Sous-Maintrain, enfin Sous-Maintrain, c'est pas une AOP, c'est une IGP, mais le Langres, le Munster, le Maroilles, et tous ceux-là, ils sont tous au nord de la Loire, quoi. Et en tout, en fait, il n'y en a pas. Parce que l'air trop sec, l'atmosphère est trop sèche, ça, on ne peut pas faire de la croûte lavée, quoi. En fait, on se rend compte que ben, les fromages, ils ont cette forme et cette durée d'affinage, etc., à tel endroit, parce que vous ne pouvez rien y faire d'autre, en fait, quoi. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et toutes les AOP ont une petite histoire comme ça, quoi. Les grosses meules en montagne, c'est parce qu'on était 4 mois en haut. Et puis, quand on redescendait, bah, c'était bien plus pratique de redescendre des gros fromages. Et puis, en plus, ils allaient se garder tout l'hiver. Et voilà, quoi. En fait, ici, on a, avec le massif, il y a plein de forêts. Il y a un massif montagneux qui est très, très humide. Il y a des sources partout. Donc, il y a une atmosphère humide tout le temps, quoi. Moi, dans ma cave, on est à 97% d'humidité en permanence, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire du coup où on se situe géographiquement, où est ta ferme, où est située ta ferme, si c'est un choix par rapport au fromage justement
Ouais. Alors on est à Moyenpal, donc on est dans la petite région de la Vosges. Alors c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas en montagne, mais on n'est pas en plaine non plus. Et, en tout cas, on a plein de forêts, plein de prairies. Et surtout, on est vraiment en pied de massif, quoi. Et du coup, on a énormément d'humidité et de pluviométrie. Et bon, les dernières années, malheureusement, on est un peu logé à la même enseigne que tout le monde. On a eu des sécheresses aussi. Mais en tout cas, nous, pourquoi on est venu là, c'est parce qu'on voulait que nos vaches, elles pâturent un maximum de temps dans l'année. Et ici, ben, ça semblait être possible. Parce que ben, déjà, autour de la ferme, on a 50 hectares d'herbe accessible depuis le bâtiment à pied, où les vaches peuvent aller, quoi. Et vraiment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est une vraie chance. Et puis voilà, la pluviométrie faisait que il pleuvait en fait ici il y a 20 ans quand on est arrivé, il pleuvait vraiment souvent. Et dans la Vosges, s'il pleut une fois tous les 10 jours, ben, on a de l'herbe tout le temps, quoi. Parce qu'on est sur des sables, avec un peu d'argile quand même, mais en tout cas l'herbe a vraiment une capacité à pousser dans ces conditions-là, quoi. Alors du coup, ben, les dernières années malheureusement nous ont montré que c'était pas une science exacte. Et bah sur les sables, quand il fait sec, bah y a vite plus rien, quoi, en fait. C'est vraiment un besoin en été qu'il pleuve une fois par semaine, 10 jours, quoi. Au départ, quand on a repris la ferme, il y avait cette ferme-là à l'origine, c'était un troupeau de cimental.
Mais, de cimental
ouais. Des grosses vaches jaunes.
Ça sent bon, j'adore cette odeur.
Quand la dame qui était exploitante avant s'est retrouvée veuve, en fait, elle n'élevait plus ses petits veaux. Elle les vendait pour avoir moins de travail, quoi. Et du coup, elle a racheté au fur et à mesure des Holstein aux voisins quand elle avait besoin d'une vache, quoi. Et du coup, la cimentale était quasi disparue de la ferme quand on est arrivé. Il en restait quatre. Et puis c'était des vieilles en plus. Mais on a réussi à garder ces souches-là quand même. Et on a racheté des petites cimentales à un autre voisin. Et des montbéliardes aussi qu'on a racheté pas mal.
C'est quoi les cimentales du coup?
C'est celles-là, les plus jaunes. Elles ressemblent à des montbéliardes, mais en beaucoup plus clair. Les rouges et blanches, donc c'est des montbéliardes. Après, on a celle qui est couchée, la noire, là, elle, c'est encore une pure Holstein, mais ça doit être la dernière qui est vraiment pure. Celle-ci, là, c'est des jumelles, les deux, là. La noire et la brune, là.
Ouais. Oui, c'est dingue. Elles ont la même tache sur le front.
Et alors, elles sont tout le temps ensemble. Elles sont rigolotes parce qu'elles ne se quittent jamais. Ah, et quand elles partent, par exemple, elles passent à la traite, il y en a une qui est passée et l'autre, elle n'est pas passée. Sa sœur, elle ne va pas partir au parc sans elle. Elle attend à la sortie du bâtiment.
C'est
vrai. Et matin, soir, elles sont toujours couchées l'une à côté de l'autre, quoi.
Voilà. Donc là, tu les as rentrées, tu les rentres quand
ça dépend vraiment du temps. En fait, en automne, des fois, on arrive à tourner encore dehors mi-novembre. S'il fait beau, elles sont bien d'aller se coucher l'après-midi dehors pour ruminer. Voilà, quoi. Mais ils ont le choix encore. Bon, là, d'ici 15 jours, si le temps ne s'améliore pas, on va vraiment fermer, quoi. Alors, par contre, nous, elles ont deux herpaillées. Et derrière le bâtiment, elles peuvent circuler. Et puis entre les deux bâtiments aussi, là, c'est bétonné. Donc elles prennent l'air, quoi. Elles ne sont pas enfermées. Tout l'hiver sans voir dehors, quoi.
Et ces vaches là du coup, vous les avez acquises comment?
Donc celles d'origine, on les a achetées en fait quand on a acheté la ferme, on a acheté tout, hein, le matériel, les vaches qu'il y avait dedans, voilà, quoi. Et du coup on a racheté tout de suite parce que du coup il n'y avait pas d'élevage, il n'y avait que les laitières, comme elle arrêtait d'élever, la dame. Et donc on a acheté tous les âges, des toutes petites et des 1 an, des 2 ans, jusqu'à des bêtes prêtes à veler, quoi. Et pour renouveler ce troupeau-là, quoi. Elles sont alors en 100% herbe, on n'a pas de maïs chez nous. Et il y a juste pour les génisses qu'on fait depuis quelques années, depuis les années de sec en fait, on s'est mis à faire du sorgho pour assurer un peu les quantités de fourrage récoltées, puisque le sorgho il a la particularité de continuer à pousser même quand il fait très sec. Lui, il lui faut de la chaleur, en fait, il lui faut un peu d'humidité pour démarrer, puis après, il pousse dès qu'il fait chaud, quoi. Donc, ça fait, je crois que c'est la quatrième année ouais, qu'on en fait. Et par contre, on le donne qu'aux jeunes, on le donne pas aux vaches en lactation, voilà. Sinon, voilà, les vaches, elles mangent donc du foin, mais aussi de l'enrubanné, soit première ou deuxième coupe ou troisième coupe. Cette année, on a fait des quatrièmes coupes même, comme il y a plus tard, on n'a fait que de récolter, quoi. Mais voilà, c'est toujours de l'herbe, en tout cas, de base. Et en complément, elles ont uniquement des céréales de la ferme, pas d'aliments du commerce achetés, quoi.
Et la durée du pâturage, c'est combien de temps à peu près?
Alors, dans l'AOP Minster, c'est 150 jours minimum. Nous, là, on les a lâchées le 11 avril cette année et là, elles sont rentrées au 15 octobre. Quoi, donc, on est à 6 mois. Quoi. Où elles viennent deux fois par jour, donc on en traite 10 à la fois. C'est pas un robot de traite, hein, c'est une salle de traite, donc il faut quelqu'un dedans pour brancher les vaches, les nettoyer, etc.
Elles viennent deux fois par jour, donc vous faites deux traites par jour.
Oui.
Et donc les fromages aussi dépendent
de. Non, des deux traites. Du coup, nous, quand on transforme que la traite du matin.
Et l'autre
Donc on a, parce qu'en fait, chez nous, il y a une partie de livraison de lait en laiterie. Donc on est encore collecté pour partie de notre production par Lactalis, en fait, qui est collecté en bio. Donc ça nous facilite un peu la vie parce que y a des jours où ça ne nous arrange pas de transformer ou, ou les jours de marché, par exemple. Voilà, je suis contente d'avoir une partie de livraison des prix. Et puis le soir, ça me permet de ne pas être obligée de reporter mon lait au lendemain matin. Sinon, il faudrait faire des maturations pour arriver à le conserver, etc. Quoi. Ou transformer deux fois par jour. Mais alors là, c'est un autre métier.
Parce que du coup, là, par jour, une vache, elle produit combien ?
Alors ça, j'en sais rien, chez nous, combien ça fait. On n'est pas dans des grosses productions, nous, pas du tout, parce qu'en fait, voilà, on ne les pousse pas beaucoup. Elles ont un tout petit peu de céréales, histoire d'équilibrer un peu la ration, qu'elles aient un petit apport d'amidon, quoi. Mais on n'est pas sur des grosses productions. Bah, la traite en tout, ça dure 1h30 à peu près. Allez, hop.
Thank you.
En pissant.
On peut descendre ?
Quoi, des sauvages, hein.
On peut descendre ?
C'est que des filles, ouais.
Oui, oui, oui. Du coup, là, il reste que les filles.
Ça, c'est que des filles, là.
Bonjour, les filles. On garde que les femelles. Les autres sont vendues généralement à 15 jours, 3 semaines.
À l'abattoir, du coup ?
Non, ils partent dans des élevages d'engraissement, en fait. En fait, quand on dit on mange du veau, c'est pas du veau qui est tout petit comme ça.
Hein. Oui.
Quand on mange du veau, il a 6-8 mois minimum. Quoi.
Oui, c'est comme l'agneau aussi, où ouais, il a pas une tête d'agneau en soi.
C'est des gros bébés, quoi. C'est pas des comme ça.
Et qu'est-ce qui vous a du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné, toi et ton mari, vers les vaches plutôt qu'un autre animal ?
Bon, déjà, on voulait faire du fromage. Ça, c'était en tout cas pour moi une condition. Non négociable. Et en fait, je pense que ben moi, le fromage, j'ai dû tomber dedans quand j'étais petite. Hein. Je suis jurassienne, donc ce que j'adorais faire, c'était aller à la fruitière du village. Quand on allait acheter le fromage à cette époque-là, il y avait une fruitière dans chaque village. Hein. Moi, j'ai 52 ans, donc voilà, ça date quand même.
C'est quoi une fruitière ?
Une fruitière, c'est une fromagerie. En fait, ils appelaient ça fruitière parce que c'était le fruit du lait, quoi.
Les fruitières, généralement, voilà. c'est pour le. Enfin, en tout cas, les fruitières, t'en as aussi pas mal pour le comté.
Oui, voilà. Bah, c'était du comté. Hein. Ouais. Donc, à la fruitière du village, quand on allait acheter le fromage le soir, c'était l'heure où les paysans amenaient leur lait. Parce qu'à cette époque-là, chacun amenait son lait lui-même à la fruitière. Ouais. Il n'y avait pas de collecte. Et du coup, en fait, il y avait une ambiance très particulière. Quoi. Il y avait un mélange d'odeurs entre l'odeur de la ferme par l'agriculteur qui arrivait, qui sortait de sa traite. Quoi. À l'époque, en plus, ils trayaient tous encore en étable entravée. Hein, donc, il y avait vraiment l'odeur de la vache. Quoi. L'odeur du lait chaud, l'odeur du petit lait, parce qu'ils commençaient aussi à faire une fabrication en même temps. Et du coup, il y avait voilà, vraiment tout ça de mélanger. Et j'adorais cette ambiance, quoi, en fait. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Quand j'ai dit à mes parents je veux faire un BTS agroalimentaire, ils m'ont dit bah, pourquoi tu veux faire ça ? Puis du coup, en fait, j'étais très attirée par le lait, mais je voulais pas me cloisonner à ça, quoi. Donc du coup, je suis partie à l'école à Valence en transformation des fruits et légumes, rien à voir. et puis du coup, je suis revenue après à la fromagerie en faisant une année de licence en fait à Poligny. Et du coup, c'est vraiment bien, bien plus tard, une fois que j'étais installée sur cette ferme, un jour où j'ai ressenti cette odeur-là en rentrant de vacances, que je me suis dit, bah oui, c'est là. C'est là que j'ai eu ce virus-là, quoi. Donc du coup, pourquoi les vaches ? Ben, sûrement pour ça. Parce que j'aimais bien cette odeur-là, sans doute. Et pourtant, voilà, je ne suis pas d'une famille où il y avait des vaches dans la famille. Je n'avais pas non plus de contact avec de contact direct avec des paysans du village. Mon frère était paysan, mais il élevait des ovins pour la viande, pour le lait. Donc voilà, de mon côté, en tout cas, il n'y avait pas de prédisposition à avoir des vaches. Du côté de mon mari, par contre, lui, il y a une ferme familiale de ses oncles, en fait, qui était vraiment tout près de chez lui. Et il y allait depuis tout petit s'occuper de... des vaches et les aider à faire les foins, etc. Tout le temps quand il est en vacances. Quoi. Niveau mâle, ils partent à 15 jours, au moins 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Quoi.
Comment tu te sens, toi, avec les vaches ? Enfin, quel lien tu as avec les veaux et les vaches ?
J'adore. Je les adore. Mais j'ai, très honnêtement, j'ai appris à les aimer, à les connaître, à les comprendre. Quoi. C'était pas du tout évident pour moi au début. Ben, du coup, voilà, comme je l'ai dit, hein, j'avais pas de prédisposition pour être dans les vaches. Même limite, j'aimais pas ça et j'en avais peur. Et du coup, quand on a repris la ferme, moi j'avais jamais trait une vache de ma vie. J'avais jamais trop approché ces bêtes-là non plus. Hein, à peu près que ça, quoi, on va dire.
faut un conserve.
On est en train de les réveiller là.
C'est intéressant parce que la plupart du temps, en fait, y a des histoires de transmission générationnelle de la paysannerie ou en tout cas des grands-parents agriculteurs, etc. Ouais, ouais. Du coup, c'est intéressant que toi, tu dises j'avais envie de faire ça, mais alors j'y connaissais rien du tout, quoi. Enfin, c'est rare, en fait.
C'est vraiment un animal, je trouve, qui gagne à être connu, la vache, parce que elles sont super intelligentes, attachantes. Elles ont un peu un sixième sens. Nous, maintenant, on leur garde les cornes et je trouve que ça leur donne une expression qu'elles n'avaient pas avant, quoi. Elles ont toute une personnalité. Hein, c'est pas des moutons. Hein. Enfin, peut-être que les moutons ont aussi une personnalité. On dit que c'est pas des moutons.
Et vous gardez les cornes, du coup?
Ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais, depuis qu'on est passé en bio, en fait, je pense. Pas forcément parce qu'on n'avait plus le droit en bio, hein, mais parce qu'on n'aimait pas trop faire ça, décorner. Alors, on a eu des soucis à un moment avec les cornes, parce qu'elles se battaient entre elles. Mais en fait, on s'aperçoit quand elles ont des cornes, il faut qu'elles aient plus de place, simplement, parce qu'elles ont une envergure qui n'est pas la même qu'avant. Et du coup, si elles ont plus de mètres carrés, ça se passe pas trop mal, on va dire. Bon, il y a toujours des dominantes et des dominées, donc il y en a toujours qui se font un peu... on se met en retrait et tout ça, mais en tout cas, si elles ont de la place, ça se passe pas mal.
Et je te voyais en train de mettre ton doigt dans la bouche du veau. Tu fais ça pourquoi? Et pourquoi ils font ça?
Parce qu'ils ont envie de téter, c'est des bébés. Donc, téter les doigts, voilà quoi. Puis bon, voilà, c'est moi qui leur donne à boire tous les jours, donc ils me connaissent.
Et du coup, pour les nourrir, comment ça se passe? Tu les nourris avec quel lait
Donc elles boivent du lait de vache, hein, c'est pas du lait en poudre, du lait de nos vaches. Donc après la traite, il y a certaines vaches qu'on garde, donc celles qui viennent de mettre bas, en fait, là il y a deux petits, voilà, donc elles, leur lait on le vend pas, on peut pas le transformer, il est trop frais en fait. Donc celui-là il est vraiment destiné aux veaux. Et puis après on garde de l'autre lait pour en avoir assez pour aussi les plus grands, quoi. On les garde au lait nous jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois. Après, on introduit petit à petit de la céréale dans leur alimentation. Et puis par contre, du foin, ils en ont très tôt, hein, à 8-10 jours, ils commencent déjà à manger du foin, quoi.
Et au bout de combien de temps elles peuvent justement... Enfin, au bout de combien de temps tu peux transformer leur lait
À partir de 15 jours, à peu près. Là où c'est important le contact avec les petits, c'est qu'en fait, elles en gardent le souvenir tout le temps, quoi. Là, quand on rentre des génisses dans le troupeau, donc qui en fait entre cet âge-là et 3 ans et demi où elles vont vêler, elles sont un peu élevées en plus grand troupeau, elles sont au parc, elles ne nous voient pas beaucoup, mais par contre, elles gardent vraiment ce contact qu'elles ont eu petites. Si elles se sauvent du parc, on y va, on les appelle, elles nous suivent, quoi. Même là, quand on les rentre dans le troupeau, on en a rentré une la semaine dernière, elles rentrent à la salle de traite comme une vieille vache, elles ne bougent pas une patte. Ça va tout seul, quoi. On se bat jamais avec, en fait, quand c'est comme ça. Et au début, c'est pas du tout évident. Et on ressent pas non plus toutes ces choses-là, quoi. Ouais, après, au fil du temps, on les approche différemment. On les découvre aussi, comme elles nous découvrent, nous. Et puis, ça installe une relation, quoi. Elles ont toutes des noms.
T'arrives à les reconnaître facilement?
Les petites, j'oublie, hein, parce que franchement, on les nomme, voilà, on a 7 jours pour les déclarer quand elles naissent, on les nomme à ce moment-là. Nous, généralement, on essaye de leur trouver un nom qui a un rapport avec leur mère ou avec leur grand-mère. Ça nous aide aussi à garder le lien de la filiation, quoi. Mais après, jusqu'à ce qu'elles fassent leur premier veau, j'oublie les noms, quoi. Quand je vais les voir au parc quand elles ont 2 ans, je sais plus qui est qui, hein.
Du coup, enfin, vous avez, j'imagine que vous avez des taureaux quand même.
Non, nous, on est tout en insémination. On n'a pas de taureaux. Ouais.
Vous faites ça vous-même, l'insémination, ou
non? C'est un inséminateur qui passe. Donc, en fait, quand on voit la vache en chaleur le matin, on l'appelle. Il passe dans la matinée inséminer la vache.
Ça, vous savez comment on sait qu'une vache est en chaleur?
Alors, on sait qu'une vache est en chaleur. Donc là aussi, c'est beaucoup de l'observation. Après, il y a des moyens modernes, hein, il y a des détecteurs de chaleur, des trucs comme ça, on n'en a pas ça. Donc c'est nos yeux. Et vraiment, faut vraiment bien observer et bien connaître ces vaches. C'est là que c'est important aussi d'être dans des plus petits troupeaux et bien connaître tous les individus, quoi. parce que ben il y en a qui vont exprimer très très fort leur chaleur, puis il y en a qui ont des tout petits signes de chaleur et qu'il faut savoir détecter parce qu'on connaît comment elle est d'habitude. Et donc les gros signes, c'est celles qui se montent dessus, qui sont capables de traverser l'air paillé en montant sur une autre vache et en galopant à moitié. Celles-là, on ne peut pas les louper, quoi. Puis il y en a d'autres, elles vont juste se laisser sentir un petit coup, et puis, ou alors faire des lessives à la copine. Et voilà, ça peut être très très discret, quoi. Et puis après, on voit aussi des fois au niveau de la vulve, des glaires, des choses comme ça qui peuvent donner une indication supplémentaire. Puis après, on suit les cycles aussi. On a un calendrier où... c'est celle que je disais qui est rentrée il y a une semaine. Là, quand elle vèle, souvent 8-10 jours après, une vache qui va bien, elle fait une petite chaleur, quoi. Donc là, on ne va pas l'inséminer là parce que c'est trop tôt. Mais on la note déjà. Et puis du coup, le coup d'après, dans 21 jours, si elle est bien cyclée, elle retombe pile à 21 jours. Donc on note les noms des vaches tout le temps. Rennes, elle est tombée là, puis il est calé tous les 21 jours. En fait, comme ça, une vache, elle retombe toujours sur la même ligne quand elle est bien cyclée. Quoi. Voilà, donc Rennes, elle est bien cyclée, par exemple. On n'a encore pas inséminé, parce que là, on l'a vu vraiment tôt, au moment-là, donc c'était trop tôt. Quoi.
Est-ce que toi, vous avez observé des dérèglements de cycle liés justement aux dérèglements
climatiques ? Alors, les années de sécheresse, oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Carrément des absences de chaleur, quoi. Elles vont en sauter une, deux, il se passe rien, quoi, pendant les moments-là. Et il y a eu les années où on a eu vraiment du sec et du chaud en été, on avait des fois 2 mois sans vêlage l'année d'après, qui correspondait bien à cette période-là, quoi.
Tu peux expliquer ce que c'est le vêlage, juste pour les personnes qui ne seraient pas...
De quoi ? Le vêlage, ouais. Ouais. Le vêlage, c'est la mise bas de la vache, en fait.
Du coup, toi, t'as fait des formations, t'as fait...
Alors, depuis, oui, parce que du coup, en élevage, j'étais vraiment complètement brute, quoi. Hein. J'avais aucune formation de base, en fait. Hein. Parce que moi, j'ai bien un BTS agricole, mais c'est agroalimentaire, donc j'ai toujours travaillé plutôt pour de l'industrie agroalimentaire, au départ. Et... Donc, j'ai pas du tout de formation de base en élevage. Par contre, mon mari en a, lui, puisqu'il était ingénieur agricole. Donc, bon, voilà, lui, les bases techniques, il les avait, heureusement. Hein, parce que... Et par contre, moi, je fais beaucoup de formations ces dernières années sur des... sur d'autres choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, même en agricole. Hein. L'année dernière, j'ai fait une formation ostéopathie. J'avais fait une formation aussi avec un veto... Qui a mis au point une méthode pour voir si l'alimentation des vaches est bonne en les observant, en fait. Ça s'appelle Oxalim. Et donc, du coup, je suis allée faire, je ne sais plus, c'était 2 ou 3 jours de formation avec lui, où on apprend à regarder ces vaches, le poil, comment il est, si elle a des croûtes au coin des yeux, des choses comme ça. Et voilà, tout ça, ça parle en fonction de... ce qu'elle a mangé, si ça lui convient ou pas. Quoi. Maintenant, on essaye vraiment d'axer notre manière de faire sur l'observation et puis et pas forcément une vache, ça doit manger tant, je lui donne tant de kilos de ça, puis ça va faire ça. Enfin voilà, non, on travaille plus comme ça chez nous.
Et au niveau du coup du rapport à l'animal, comment vous vivez du coup la mort d'une vache ou la séparation aussi des veaux femelles et des mâles?
Alors, c'est des choses pas simples. C'est pas les moments les plus rigolos de l'élevage. Malheureusement, ça arrive. Il y a des animaux âgés qui meurent. Mais bien souvent, en élevage, c'est pas ça qui arrive. Parce que les animaux âgés, même une vache de réforme, nous, elle part à l'abattoir. Quoi. Donc, c'est pareil, ça. Là, nous, on en a une. Une des grosses que je vous ai montrée tout à l'heure, là, elle a 11 ans, donc elle va pas partir, elle va bien. Hein. On en a une autre qui a 13 ans, donc elle a la mamelle qui est foutue, elle fait du lait qu'on jette, en fait. Donc il y a un moment, il faut se poser des questions, quoi. Économiquement, on ne peut pas les garder.
Et combien d'années vit une vache ?
Donc, on a les âges, on a le nombre de vêlages, on a tout.
Leur carte de santé.
Tiens, Alpine, elle est là... Elle est née en 2012, donc elle a 11 ans. Elle a fait 8 veaux déjà, cette vache. Elle va très bien, elle. Donc elle s'en va pas. Hein.
Parce qu'à partir de quel âge vous les inséminez
Les insémine, nous, entre 2 ans et 2 ans et demi, à peu près. Alors, la séparation des veaux des vaches, ça fait quelques années qu'on se pose des questions là-dessus. parce que ben moi je suis maman hein, donc c'est quelque chose de quand même pas naturel et puis ben oui quand on le au moment où je le fais moi j'aime pas le faire hein, très franchement alors je parle toujours à la vache, je lui dis toujours t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton petit, je vais en prendre soin, etc. Et puis le petit, pareil, je vais te donner le lait de ta maman. Déjà, voilà, en tout cas, ça c'est clair, tant que la maman du petit veau là, elle est prise à part à la traite, ce petit veau, il aura le lait de sa maman, quoi. Dans un biberon, mais il aura le lait de sa maman.
Tu fais des rituels, du coup, c'est des rituels, en fait, que tu fais, quoi.
Ouais, voilà, c'est plus sur l'énergétique, et puis essaye de les accompagner au mieux, même si c'est pas terrible, voilà. Je lui dis aussi, ben, ton petit va être avec ses petits copains, il sera pas tout seul, et puis elle, pareil, tu pourras aller tranquille au parc avec tes copines.
Nous faire un petit tour de la fromagerie et aller voir aussi les vaches.
Oui, on va peut-être commencer par la fromagerie.
Ok,
les trois. Mais en fromagerie fermière, au lait cru, c'est pas aseptisé du tout comme, comme en industrie. Quoi. Alors justement, moi, par mes études, ben, j'ai travaillé en industrie, je sais comment ça fonctionne. Et en fait, ben, quand on arrive en fromagerie fermière, ben, on apprend à travailler complètement autrement de ce qu'on a appris à l'école. Quoi. Parce que ouais, le tout aseptisé, tout ça, ça fonctionne pas en fermier, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible et puis c'est même dangereux en fait. Donc chez nous, on lave mais on désinfecte pas. Et une fois qu'on a compris ça, ben, en fait, on a bien moins de soucis. Nous, on essaye de travailler avec les ferments autochtones, on va dire, qu'on a dans le lait au départ. On ne voulait pas être à l'étroit. Et bah, du coup, moi, comme j'ai eu quand même pas mal d'autres expériences avant, j'ai eu un projet d'installation donc en Haute-Saône chez quelqu'un qui faisait aussi de la transfo à la ferme. J'ai travaillé chez un affineur en Alsace aussi pendant 3 ans. Et puis, mon premier boulot, c'était en Haute-Marne, chez un producteur fermier qui faisait du fromage de Langres. Et puis du coup, voilà, au fil de ces expériences en fromagerie, j'ai vu plein d'autres labos avec plein de bonnes choses à prendre et d'autres qu'il fallait faire attention de ne pas faire comme eux. et du coup, voilà, on a essayé de ne pas faire trop de bêtises. Donc on a quelque chose qui est quand même bien fonctionnel. Il y a de la place. Et puis, voilà, là, c'est la partie lavage, c'est central. Toutes les pièces, les yaourts, ils sont dans la petite pièce là-bas, donc ils sont vraiment à part du reste. C'est du lait pasteurisé, et du coup, il ne faut pas que ça soit en contact avec ce qui est lait cru. Ici, on fait des petits fromages frais, fromage blanc. Donc, pareil, ce n'est pas les mêmes températures. Hein. Ici, il faut qu'il fasse 20 degrés. Là, quand ça égoutte l'après-midi, il faut plutôt qu'il fasse 25, il ne fait pas assez chaud, il faut que je remonte la température. Ce que je vais retourner, là, c'est des minsters qui ont été mis ce matin. Ça, c'est du bachelin. C'est un nouveau fromage, c'est une pâte pressée cuite. Pâte pressée cuite, ça veut dire qu'on chauffe assez haut en température. Là, on monte à autour de 50 degrés avant moulage. Ça, c'est des tomes et des raclettes. Donc ça, c'est des pâtes pressées. Donc là, on ne monte pas au-delà de 40 degrés. On est même plutôt à 38, quoi, en général. D'autres vachelins, en fait, qui sont plus vieux, qu'on laisse encore ici au chaud pour qu'il y ait l'ouverture dedans, en fait, parce qu'on veut que ce soit des fromages à trous. Je vous les montrerai, il y en a découpés là-bas tout à l'heure. Puis vous goûterez aussi.
D'ailleurs, c'est quoi en fait qui fait les trous dans le fromage ? Je l'ai su, mais...
C'est du gaz.
C'est l'air qui est emprisonné dans le
fromage. Non, c'est pas de l'air.
C'est du gaz
fabriqué par des bactéries en fait.
D'accord.
Donc ça, dans celui-là, en fait, c'est des bactéries propioniques, on les appelle.
Et ça, du coup, c'est vous qui l'ensemencez ?
Alors ça, c'est ensemencé, ouais.
Ça veut dire quoi, ensemencé ?
Ensemencé, en fait, on amène les ferments dans la cuve... avec des ferments qu'on achète dans le commerce. Quoi. Et donc je disais, chez nous, on aime bien travailler avec les ferments autochtones, ce qui est le cas pour tout ce qui est flore de surface. En industrie, par exemple, quand on a pasteurisé le lait, il n'y a plus rien dans le lait. Donc tout ce qu'on veut qui se développe sur le fromage, il faut l'amener. Alors que chez nous, en lait cru, l'ensemencement du lait, dans la mamelle, le lait, il est stérile. L'ensemencement, il se fait au contact du matériel de traite, de tout ça. Et donc c'est des bactéries qui sont là dans notre environnement. Toutes les bactéries lactiques, elles sont comme ça, elles sont sur le foin, elles sont voilà. Et il y a les bactéries lactiques qui, elles, vont servir à acidifier le fromage. Donc la première partie, là, on est déjà en cours d'acidification, on est déjà même bien avancé hein, quand on est en début d'après-midi comme ça. Donc là, l'acidification, c'est-à-dire que le pH du lait descend. Donc ça, c'est provoqué par des bactéries qui consomment le lactose du lait et qui le transforment en acide lactique. Et après, donc à l'affinage, il y a d'autres bactéries et levures et moisissures qui vont entrer en jeu, donc qui sont des ferments d'affinage, quoi. Donc soit on les amène, ce qui est le cas, on les pasteurise, soit on les a dans l'environnement et on n'a pas besoin de les amener.
T'appelles ça les ferments autochtones ?
C'est des flores sauvages qui sont là.
Pour que le lait caille, du coup, vous mettez quelque chose ?
Donc, alors, nous, ça, c'est pas vraiment par sécurité technologique, on va dire, qu'on ramène un petit peu de bactéries lactiques qui serviront juste à l'acidification.
Mais c'est pas obligé ?
Non, c'est pas obligé.
Ouais, ok. Quand on travaille en lait cru, du coup, on peut laisser du lait
très bien,
qui va cailler naturellement.
Ouais, c'est ça. Alors, je dis par sécurité parce que, notamment en Munster, on a un fromage qui est extrêmement sensible à tout ce qui est staphylocoque, listeria, et surtout staphylocoque, en fait. Et si l'acidification n'est pas assez rapide, on peut exploser en staphylocoque. Il y a des staphylocoques, il y en a, hein, dans l'environnement, dans le lait, il y en a toujours. Et donc, il faut vraiment maîtriser cette acidification de début de fabrication de Munster, qui doit être très rapide, pour se sécuriser de ce côté-là, quoi. Par sécurité, je mets des ferments du commerce qui permettent cette acidification-là. Et par contre, nous, on n'apporte pas du tout de ferments d'affinage. Parce qu'en fait, je prends toujours en exemple le Munster, parce que c'est sur celui-là que c'est le plus flagrant. En début d'affinage, il y a des levures qui vont pousser dessus. Donc ils deviennent tout poisseux en fait, et ils restent un peu jaunes comme ça. Ces levures, elles vont, elles, l'acide lactique qui a été produit là au début, elles vont le consommer. Du coup, elles vont désacidifier le fromage. Et en désacidifiant le fromage, elles vont permettre aux bactéries du rouge de s'installer. Les bactéries du rouge, c'est ce qui rend le Munster un peu orange, quoi. Donc du coup, ces levures, ces bactéries du rouge, ben, en fait, on les a dans notre environnement. C'est pas pour rien qu'on a fait du Munster dans les Vosges, c'est qu'il y en a là, quoi. Donc il n'y a pas besoin de les amener si on les laisse pousser, quoi. En fait, c'est ça.
Et au niveau de l'AOP par rapport au Munster, ici, à Xersigny, à Mirabal, vous pouvez appeler ça du Munster.
Oui. Comment l'appellation, c'est Munster ou Munster Jérôme. Donc, même moi ici, je peux mettre Munster Jérôme, même un Alsacien, il peut Jérôme mettre Munster Jérôme. Personne va nous l'interdire, quoi. Okay. Mais effectivement, à l'origine, le Jérôme, en fait, Jérôme, ça veut dire Gérardmer, de Gérardmer. Donc, le Jérôme était plutôt côté vosgien et le Munster était plutôt côté alsacien. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre, nous, dans l'AOP, on n'a pas le droit de mettre Jérôme tout court, en se disant, nous, on est vosgien, on veut l'appeler Jérôme. Non, on est obligé de l'appeler au moins Munster Jérôme. Donc, nous, on n'a mis que Munster, parce qu'on se dit, on n'est pas non plus de Gérardmer, quoi, voilà. On est arrivé au début, ben, on ne connaissait pas grand-chose non plus. Hein, donc on faisait comme on nous disait, comme faisaient les anciens aussi. Et puis on a continué comme ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ben, c'est pas ça que je veux faire. Quoi.
Au niveau de la transmission, parce que tout à l'heure, tu disais du coup que tu étais maman.
Oui.
Est-ce que le passage à l'agriculture biologique est aussi venu avec l'arrivée des enfants, enfin de se questionner par rapport à ce que vous laisseriez Parce qu'il y a une envie de transmission après de la ferme possiblement aux enfants ou
Oui, alors bah, c'était pas... Enfin, pareil, au début, on s'était dit, de toute façon, nous, on fait ça, c'est notre choix. Mais on n'obligera pas nos enfants à reprendre. S'ils ont envie, on les empêchera pas. Mais il n'y aura pas de couperet qui dira il faut absolument qu'il y en ait un qui reprenne. Voilà. Mais bon, il semblerait qu'il y en ait un qui soit assez décidé. Donc les grands ont 21 ans, là, et... je dis les grands parce qu'ils sont jumeaux, les premiers enfants. Et donc il y en a un des deux ouais, qui se destine a priori à devenir agriculteur. Pour l'instant, là, il travaille à l'extérieur. Il vient de commencer à travailler, en fait. Il vient de finir l'école. Mais il envisage de revenir sur la ferme d'ici quelques années.
Et du coup, ça veut dire que vous lui avez un peu transmis des savoir-faire petit à petit. Il était là quand vous avez fait la traite ou...
Oui, il est là tout le temps, en fait. Là, il travaille et il travaille loin et ça lui manque énormément, en fait. Il rentre les week-ends, il est à la ferme tout le temps, voilà.
Ouais, du coup, la transmission, ça se passe vraiment par l'observation,
ouais.
L'expérimentation.
Oui, oui, et puis du coup, voilà, il sera plus riche que nous en matière d'expérience et de vécu, quoi, voilà.
Si par exemple ton fils reprenait là demain, tu lui dirais quoi par rapport aux connaissances à acquérir pour et connaissances au sens large, enfin connaissances savoir-faire. Acquérir pour devenir éleveuse de vaches.
C'est plus la relation à l'animal où il faut aller encore plus loin et je pense qu'on est capable de partager encore plus de choses avec elle quoi parce que elle nous donne plein de choses au quotidien et nous il faut qu'on leur donne aussi. Donc on est trois actifs hein, sur un élevage comme ça donc ouais. C'est en fait il y a que chez les gens qui font de la transformation hein, qu'il y a des structures comme ça quoi parce que en fait si on livrait tout notre lait en laiterie trois actifs on vit pas hein, sur un troupeau de 50 vaches quoi c'est pas possible
c'est ça.
Et puis l'autonomie qui est vraiment importante aussi donc nous là ce qu'on travaille vraiment à développer c'est plus d'autonomie fourragère autonomie dans les céréales aussi et vraiment plus dépendre de l'extérieur parce qu'en fait aujourd'hui quand on voit comme les prix grimpent et tout ça il faut absolument surtout en bio hein, quand on doit acheter des produits bio c'est très très cher quoi tout ce qui est aliments du bétail et tout
Et d'ailleurs vos produits moi je les trouve vraiment pas chers comparé à d'autres produits comment vous faites pour malgré l'inflation malgré toutes ces contraintes économiques parvenir à un prix
Eh ben sûrement de cette manière-là parce que on dépend pas trop en fait des achats extérieurs. Évidemment, on achète quand même toujours du GNR pour mettre dans le tracteur pour aller faire les récoltes, du plastique pour mettre autour des balles, des choses comme ça. Bon bah ça, on n'échappe pas aux augmentations. Hein. Mais en tout cas, voilà, au niveau de l'aliment des animaux, on essaye de pas acheter et ça, c'est une richesse quoi, hein, vraiment. Et puis on sait aussi ce qu'on leur donne du coup.
Et par rapport aux soins procurés à la vache, est-ce que vous faites intervenir un vétérinaire ? Est-ce que toi, tu as des formations particulières, même au niveau de l'homéopathie ou au niveau des plantes ?
Alors Yannick, mon mari, lui, il a fait pas mal de formations et en homéo et en aromathérapie. Et donc, on les soigne quand même beaucoup avec ça. Mais bon, bien évidemment, on fait quand même appel à des vétérinaires quand il y a besoin. Parce qu'on n'est pas toujours... on n'est pas des vétos hein, nous-mêmes. Hein, donc des fois, on ne sait pas. Ou des fois, on n'a pas ce qu'il faut non plus pour faire. Et donc, quand il y a besoin, oui, les vétos viennent. Et on a quand même parfois aussi recours aux antibiotiques, aux anti-inflammatoires, bien qu'étant en bio. Il y a des moments où on ne peut pas passer à côté. Hein, c'est comme pour les gens, quoi.
Enfin, je me demandais comment, toi, au début, tu avais vécu le fait de t'installer toute seule en tant que femme.
Donc, l'installation au départ en tant que femme, c'est vrai que ce n'était pas facile. En plus, moi, quand je me suis installée, donc nos deux bébés avaient 9 mois. Et donc, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et puis, effectivement, psychologiquement, c'était compliqué parce que... Donc, moi, je suis pas originaire d'ici, je suis jurassienne. Donc, toute ma famille est dans le Jura. J'avais pas de personne ressource sous la main. Hein, pas de mamie, pas de... Donc, y a mes beaux-parents qui sont pas très loin, qui sont à 70 km. Mais en tout cas, ma famille, à moi, elle était pas là, quoi. Et mes amis non plus, hein, parce que je suis pas originaire d'ici. Et juste avant, on vivait pas là, on vivait près de Vittel. Et donc, voilà, quand on se retrouve dans un village avec deux petits bébés, des vaches, son mari qui part au boulot toute la journée, c'est un peu compliqué, ouais. Et il y a des jours où je disais, aujourd'hui, j'ai vu mes bébés, ma nounou, et puis, et puis les vaches, quoi. Donc, ouais, socialement, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Donc, après, plus tard, par l'école, tout ça, on a fait plein de connaissances aussi d'autres parents, des parties d'associations. Après, les enfants, ils ont fait du vélo. On s'est beaucoup investi dans l'association de VTT, quoi. Donc, voilà, il y a de la vie après qui se met en route autour et ça va mieux quand il y a un peu de vie sociale, quoi. Mais ouais, c'est vrai que être agricultrice socialement, c'est pas simple, quoi. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que, en fait, suite à la précédente expérience que j'avais eue en Haute-Saône où je devais m'installer et qui s'est arrêtée un peu du jour au lendemain, il se trouve que j'ai été enceinte de mes jumeaux quelques mois après. Et du coup, j'avais pas encore repris d'activité. Donc, j'ai pas repris d'activité. Au bout de 2 mois de grossesse qu'on a trouvé cette ferme-là, en fait. Et du coup, en fait, toute la grossesse, je l'ai passée à peaufiner le projet, à venir voir la cédante, etc. Ça m'a occupée, du coup, et puis, ça m'a reposée aussi, parce que du coup, comme je n'avais pas d'activité à côté, ça allait. J'avais le temps de préparer le projet.
Et justement, est-ce que tu penses que être maman et être une femme, ça t'a permis aussi une autre relation avec les vaches, notamment un autre rapport dans le sens où, tu sais, enfin, je veux dire, toi aussi, tu as eu des naissances.
Ouais, ça, c'est sûr. Encore la semaine dernière, je descendais manger, il était midi et quart. Je passe devant le parc des Taris, juste entre le bâtiment et la maison, là, et j'en vois une couchée de loin. Je dis, c'est lecture, elle doit veiller, je vais voir. Elle est en train de veiller. J'approche, puis je me dis, c'est bon, c'est bien engagé. Ah mince, c'est pas les bonnes pattes, elle est en siège. Donc là, on recourt dans l'autre sens, on va remettre la côte, les bottes, chercher les cordes, et puis faut l'aider, quoi. On la laisse pas comme ça, c'est pas possible. Du coup, ça s'est bien passé. Je l'ai aidé, le veau est né, vivant, même en siège, voilà, ça s'est bien passé. Il a respiré, il a pas bu la tasse. Mais en tout cas, voilà, on ne les laisse pas dans la panade. Mais bon, après, je dis ça, mon mari, c'est pas une femme, il a jamais accouché. Il va quand même aider une vache qui est en train de mettre bas. Il va toujours voir si ça se passe bien, en tout cas, quoi. Mais la naissance, ça reste vraiment un moment magique, quoi. On a beau en voir 50 par an, moi, je reste toujours 10 minutes à la regarder lécher son veau. Je trouve ça chouette, quoi.
Les mises bas, elles font ça toutes seules, du coup. Des fois, vous les aidez quand c'est nécessaire, mais sinon...
Ouais, chez nous, bien souvent, elles font tout toutes seules. Et puis, y compris tout ce qu'il y a à faire après. Nettoyage de l'endroit pour qu'il n'y ait pas de prédateurs. Elles vont, après, quand elles vont se purger, elles mangent leur purge immédiatement derrière pour faire tout disparaître. Et c'est là qu'on se dit que la nature, elle est magnifique, quoi. Elle sait tout faire. Et voilà, quand je disais on a une approche qui est différente aujourd'hui, c'est qu'on veut aussi revenir à un instinct plus naturel de nos vaches. Et petit à petit, on y arrive, parce que très honnêtement, au début qu'on était là, moi, j'ai jamais vu toutes les vaches manger leur purge et s'occuper de leurs veaux comme elles le font aujourd'hui. Et du coup, les petits veaux derrière, ils vont super bien. On a très rarement des pathologies sur les veaux. Parce que les vaches, elles les lèchent, ils boivent le colostrum directement après la vache, donc ils s'ensemencent à ce moment-là. C'est pas plus bête que ça, quoi. Et on parlait d'équilibre microbien tout à l'heure, ça démarre là, quoi. Et ça, c'est super important. On en parle beaucoup pour les bébés maintenant, les problèmes de microbiote. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à des choses plus naturelles, quoi.
Je pense que le fait de beaucoup moins intervenir, ça se re-règle, en fait.
Ouais, parce qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. C'est inscrit dans leur gène, quoi. Il n'y a pas besoin de leur dire, elles savent comment il faut faire.
On n'a jamais mis de ferment du commerce en l'affinage de nos produits. Mmh. Et en fait, on a sélectionné nos souches, des souches sauvages qui étaient présentes ici, quoi, en fait. Alors au début, ça ressemblait pas à du Munster pendant un mois ou deux. Le temps qu'on leur mette les bonnes conditions, mais je veux dire, les levures et les bactéries du rouge, elles sont venues toutes seules, on les a pas... On aurait pu, en une semaine, vous mettez des sachets dans le lait, et puis c'est fait, quoi. Alors, je dis pas que c'est du produit industriel, si on a fait ça, mais en tout cas, ça a été moins authentique, quoi. Vous faites des fromages, vous les frottez, au début, c'est pas trop rouge, mais... Et puis après, il y a les planches se sont ensemencées, dans la cave.
Le plus dur à mettre en route, c'était les planches, en fait.
C'est ça, oui.
Qu'est-ce que c'est, les planches? Les planches d'affinage. Parce qu'en fait, quand elles sont toutes neuves, qu'elles sortent de la scierie, ben, elles sont...
sont brutes, il n'y a pas de fleurs dessus.
Et du coup, ben, au début, les fromages, ils étaient un peu toutes les couleurs.
On ne les a pas vendus au début. Hein. Mais en tout cas, on a... Ouais, on a à la fois fait comme s'ils étaient bien, mais on a attendu que ça vienne, quoi.
Et du coup, oui, je pense que le savoir-faire, c'est vraiment aussi lié à une observation du vivant, de tout ce qui nous entoure, et de l'expérience, et enfin, c'est tout ça mélangé à la fois, quoi. Quand on fait des analyses microbio dans différentes régions de France, eh ben, si on cherche les souches autochtones, on ne va pas trouver les mêmes, justement. Donc c'est bien plus intéressant de laisser développer celles qui sont d'ici, parce que déjà, ben, elles sont d'ici, donc elles vont arriver à bien mieux se développer. C'est comme un arbre qu'on transplante d'une région à une autre, c'est pareil.
En fait, on n'a pas cherché à transformer ce qu'on pouvait trouver ici.
Ouais.
En fait, c'était là. Il suffisait de le laisser éclore ou se développer. Enfin, c'était pas... La bactérie du rouge, en fait, c'est des points bien définis en France. Alors, c'est une façon de faire parce qu'on frotte le fromage et c'est ce qui va lui permettre son développement. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de bactérie du rouge. En tout cas, la preuve, il n'y a pas de fromage de ce type-là dans certaines régions de France. Donc il y a des lieux, il y a des biotopes, c'est l'acidité, c'est l'humidité, c'est plein de choses, c'est les températures qui font qu'on développe... Le rouge, on le trouve plutôt sur du granitique, en fait, hein, gréseux granitique. Et quand on regarde bien, il y a un peu le langre qui est différent, mais du coup, c'est pas le même rouge.
C'est un
lactique, donc du coup, on trouve pas le même rouge. Et par contre, ben, le maroilles, on rejoint les parties un peu granit des Ardennes, et ainsi de suite, quoi. Enfin voilà, il y a une forme de cohérence de type de sol, de plein de choses. Mais du coup, on a des produits différents, comme dans le vin en fait. Par contre, ce qui est difficile et qu'on n'a jamais fait, c'est d'avoir des fromages avec un autre type de croûte ou de flore. Parce que du coup, une fois que vous avez développé cette flore-là, elle est hyper présente et c'est elle qui domine. Donc faire du gris, du pénicillium, des choses comme ça, ce serait sûrement pas trop. En tout cas, pas dans la même cave en tout cas. Ça pourrait être problématique. Et la preuve que c'est bien les vaches, l'environnement qui amène cette flore, c'est qu'il y a un moment donné, on trouvait qu'en staff, on était en limite et on avait voulu désinfecter les trayons avant traite. Ah ben c'est simple, le macérat était tout blanc.
On n'avait plus de levure, en fait.
Plus de levure.
Et levure, c'est très sensible. Et du coup, eh ben, elles avaient totalement disparu. Elles sont vite revenues, hein, une fois qu'on
a
supprimé le produit.
Produit qui était désinfectant, en fait. En fait, on lave nos vaches au salon de Marseille. Pas casser la flore. Il y a tellement de souches différentes que même quand il y en a une qui est peut-être moins bien... D'ailleurs, on a des différences de couleurs entre l'hiver, l'été, tout ça. Donc c'est bien la preuve qu'on a différentes souches
différentes
de bactéries.
Qui s'expriment selon le temps qu'il fait, etc.
Parce que ça a été caractérisé dans le massif, justement, que telle souche donnait plutôt telle couleur, etc. Donc il y a un panel de couleurs qui va du jaune ou rose très très pâle jusqu'à du orangé presque rouge intense dans le master. Si vous regardez bien en fermier, vous avez toutes les teintes, quoi. Et chez nous, entre l'hiver et l'été, on a des différences de teintes.
En hiver, on a des fromages beaucoup plus pâles qu'en été.
Puisque la radio ne vous donne pas le goût de leur fromage, retrouvez-les sur le marché de Bain-les-Bains les vendredis matins et sur celui d'Épinal au marché des producteurs bio les vendredis des semaines impaires de 16h à 19h. Vous pouvez également les retrouver dans deux magasins de producteurs, à l'Arvoyotte, à Les Forges ou encore à la Belle Campagne à Vendeuve-les-Nancy. Merci d'avoir écouté cette émission. C'était les tisseuses et les tisseurs du vivant sur Radio Guémezo. Belle journée!